Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parler temps qui court.
C'est la dernière de la saison et tout le monde est là. La personne qui vient vous dire bonsoir s'appelle Marianne Chassot.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, t'es papé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parlez-temps qui court. Alors, c'est pas très simple de résumer une saison radiophonique. C'est une petite chose, mais elle est faite de tellement d'autres toutes petites choses que c'est difficile à attraper en peu de mots. Et comme il fait chaud, on va pas se risquer à la besogne. Cependant, c'est plus fort que nous. Ce cycle de 220 émissions environ a beau revenir tous les ans, on ne peut pas s'empêcher, arrivé en juin, de se demander qu'est-ce qu'on a fait, qui a parlé, comment et de quoi, qui n'a pas parlé, qu'est-ce qu'on a réussi à transmettre ou complètement raté, par quelles heures de radio, vous, les auditrices et auditeurs, avez été singulièrement touchés. Bref, de faire comme nos bons vieux aînés chanteurs du groupe Negmaron, calmement, le bilan. En fait, on fait tout le temps un peu le bilan, de manière légère. C'est la joie de la radio quotidienne, chaque jour, fabriquer, diffuser, questionner, continuer, recommencer. Aujourd'hui, pour vous, un peu bricolé dans l'urgence, mais avec beaucoup de soin, quelques voix qui ont couru dans vos temps qui courent, quelques voix qui ont ralenti le pas. C'est notre façon de nous tourner vers la grille d'été et surtout de vous remercier pour la fidélité chaque soir et en podcast. Alors c'est vrai que quand on parle de radio, on en parle en termes de saison. Et en plein mois de décembre, l'autrice Ryoko Sekiguchi émerveillait nos oreilles papilles en évoquant de fameuses dernières tomates d'hiver.
Récemment, il y avait une productrice de légumes, Angeline, qui m'a envoyé les tomates, les dernières tomates de son potager.
Au mois de décembre.
Au mois de décembre, c'est vraiment les dernières tomates qu'elle vient de cuire avant-hier et que j'ai goûté hier. Elles étaient délicieuses et c'est étrange parce que c'est si j'ose dire que ça avait un goût d'une femme d'un certain âge, vous savez, mais en fait, qui garde les jeux d'une enfance, d'une innocence, qui venait de découvrir le monde. Vous voyez, parfois, il y a des femmes comme ça qui, en parlant avec elles, qui deviennent de plus en plus belles. J'en la trouve de plus en plus charmante et en fait séduisante. Et ces tomates avaient ce goût-là.
L'archive ne ressemble ni au texte, ni aux documents imprimés, ni aux relations, ni aux correspondances, ni aux journaux, ni même aux autobiographies. Elle est difficile dans sa matérialité, parce que démesurée, envahissante comme les marées d'équinoxe, les avalanches ou les inondations. La comparaison avec les flux naturels et imprévisibles est loin d'être fortuite. Celui qui travaille en archives se surprend souvent à évoquer ce voyage en termes de plongée, d'immersion, voire de noyade. La mer est au rendez-vous. D'ailleurs, répertoriée dans des inventaires, l'archive consent à ses évocations marines, puisqu'elle se subdivise en fonds. Déroutante et colossale, l'archive pourtant saisit. Elle ouvre brutalement sur un monde inconnu, où les réprouvés, les miséreux et les mauvais drôles jouent leur partition dans une société vivante et instable. L'archive est une brèche dans le tissu des jours, l'aperçu tendu d'un événement inattendu. En elle, tout se focalise sur quelques instants de vie de personnages ordinaires, rarement visités par l'histoire, sauf s'il leur prend un jour de se rassembler en foule et de construire ce qu'on appellera plus tard de l'histoire. L'archive n'écrit pas des pages d'histoire.
C'est Valentin Rémy qui a cherché beaucoup d'archives radio cette année et qui a choisi un petit bout du goût de l'archive. Parce qu'en ces temps où on discute politiquement, financièrement, médiatiquement de la radio publique, on s'est beaucoup dit qu'il fallait raconter comment on travaille. Comment on fabrique les heures de radio qu'on diffuse tous les soirs? Quelles questions on se pose? À quoi l'on emploie ce temps précieux et nécessaire pour imaginer une radio souple, ample, dense, exigeante et qu'on espère généreuse? Bah, par exemple, une partie importante de ce travail, c'est d'écouter. Des archives à l'INA, de découvrir ou de redécouvrir le travail de celles et ceux qui nous ont précédés, mettre des voix en résonance, en réseau, pour que la radio d'hier augmente la radio d'aujourd'hui, que les idées se percutent, se nourrissent, se contredisent, et pourquoi pas fabriquer des archives pour demain. Les artistes qui viennent ici parler de leur travail sont toujours émus, mais vraiment toujours émus, des voix qu'on leur fait entendre. C'est comme si on lançait une balle rebondissante à quelqu'un pour jouer, et on n'a plus qu'à espérer que de l'autre côté du poste, vous l'attrapez aussi. Ce soir, allons tranquillou de voix en voix, d'archive en archive, du mois d'août 2018 au mois de juin 2019, radio de l'automne, hiver, printemps jusqu'à radio d'été, saison que s'est si bien filmée la réalisatrice Valeria Bruni Tedeschi. Je disais à l'instant que notre métier consiste à beaucoup écouter et entendre, et ben elle nous rappelle que c'est rare de s'entendre vraiment, que c'est toujours un petit miracle.
Oui. En fait, on s'entend et on se voit vraiment rarement. Peut-être un parent, son enfant, mais pas tout le temps. Peut-être quand on tombe amoureux. Peut-être quand on a peur, quand on est dans le désarroi, on voit vraiment les autres. Enfin voilà, c'est presque un miracle quand on se regarde vraiment. Simone Veil, la philosophe, parce qu'il y a deux Simone Veil, et elle disait ça, elle disait qu'il n'y avait pas en fait, il n'y avait pas vraiment de miracle sur la Terre. Elle disait que les miracles médicaux, c'était rien du tout, c'était juste qu'on était ignorant. Et donc elle disait qu'il n'y avait pas de miracle, que le miracle était juste de l'ignorance. On ne savait pas expliquer quelque chose à un événement médical, par exemple. Et on disait c'est un miracle, parce qu'on juste on savait pas. Par contre, qu'il y avait un seul vrai miracle sur la Terre, c'était quand deux personnes, une personne regardait une autre et rentrait en empathie. Ce miracle, cette chose de l'empathie gratuite, de reconnaître en l'autre soi-même et l'être humain. Et voilà. Et ça, elle disait, ça, c'est un miracle.
Pour chanter l'amour, une qui serait jolie, qui le serait toujours, une qui serait toujours belle, nouvelle, une qu'on chanterait encore et encore jusqu'à notre mort, une. Celle du bonheur qu'on aurait appris et qu'on chanterait en cœur, où faudrait qu'elle soit forte, oui qu'elle porte loin, jusque dans les hauteurs, en couleur, nous porte un bonheur, bonheur. Note aucune qu'on chanterait ici au clair de la lune, oui mais même sous l'orage des nuages, même pendant la tempête en trompette ce même message, mais faut pas qu'on avec le temps se tait. faut pas qu'il s'enfuit dans le vent ce poème. Cette mélodie, comment on l'écrit? Donnez-nous le la, fa, si, do, ré, mi, et donnez-nous le ton, le bon, et donnez-nous la clé de la chanson.
C'est facile de décrire la lumière, surtout quand elle est déjà interprétée, décrite par un peintre, par un photographe, par etc. Mais décrire la lumière dans laquelle on est, puisque c'est notre élément quotidien, c'est très difficile. Et je pense que les gens, très souvent, n'en ont pas conscience. Quand je marche dans la rue en fin de jour, j'adore ça, on voit des fenêtres allumées. Et très souvent, on voit derrière ces fenêtres allumées un lustre, une ampoule, quelque chose qui tombe du plafond. Pour moi, c'est effrayant. Se dire qu'on est le soir, alors qu'il faut avoir des lampes à sa hauteur, autour de soi, se poser sur une table, avec une ampoule au plafond, je me dis, mais comment font ces gens ? Et ça, c'est la preuve que les gens ne font pas si attention que ça à l'élément vital dans lequel ils habitent, enfin, ils vivent.
Pas facile de parler de la lumière à la radio. Pourtant, cette grande directrice de la photographie qu'est Caroline Champetier l'a si bien fait tout récemment. Au micro de Par les temps qui courent, elle avait été capable, en 2 secondes, de dessiner le coin le plus sombre de notre studio. C'était le noir de notre studio et ça nous avait émus. On s'est aussi souvenu avec émotion de la visite de l'auteur italien Eri De Luca, dont le dernier roman est un dialogue avec un fils qu'il n'a pas eu. On le réécoute.
Et ce sentiment d'être utile, utile, un instrument, un instrument, je l'ai retrouvé après, quand je me suis trouvé à être incriminé par des questions de soutien à une lutte de la Val de Susa, de cette vallée. Et alors j'ai été incriminé pour des choses que j'avais dit. A produit le fait que cette lutte, petite lutte, mais courageuse et décennale, cette petite lutte a pu être écoutée mieux. Donc, je me suis aperçu d'être inutile, d'être devenu involontairement inutile d'amplification de cette délirion, de cette lutte, de la voix de cette lutte. Mais c'est exactement ce que je peux faire. Je peux faire l'utile d'un amplificateur, de relancer plus loin le signal d'une lutte qui n'est pas écoutée. Dans un passage de l'Écriture sainte, dans le Proverbe, il y a ce vers qui dit « Ouvre ta bouche pour le muet ». Qu'est-ce que ça veut dire le muet ? C'est pas quelqu'un qui a un déficit aux cordes vocales, c'est quelqu'un qui dit mais personne l'écoute. Ou quand on l'écoute, on le malentend. On le calomnie, on le change les mots dans la bouche. Et donc, j'ai pu faire exactement ça. Être la, ouvrir ma bouche pour le muet. Pour cette lutte qui était muette et maintenant ne l'est plus.
Ralenti, on tâte le pouls des choses, on y ronfle. On a tout le temps, tranquillement, toute la vie. On gobe les sons, on les gobe tranquillement, toute la vie. On vit dans son soulier, on y fait le ménage, on n'a plus besoin de se serrer. On a tout le temps, on déguste, on rit dans son poing, on ne croit plus qu'on sait, on n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant, on est heureuse en ne buvant pas. On fait la perle, On est, on a le temps. On est la ralentie. On est sorti des courants d'air. On a le sourire du sabot. On n'est plus fatigué. On n'est plus touché. On a des genoux au bout des pieds. On n'a plus honte sous la cloche. On a vendu ses monts. On a posé son œuf. On a posé ses nerfs. Quelqu'un dit. Quelqu'un n'est plus fatigué. Quelqu'un n'écoute plus. Quelqu'un n'a plus besoin d'aide. Quelqu'un n'est plus tendu. Quelqu'un n'attend plus. L'un crie, l'autre obstacle. Quelqu'un roule, dort, coud. Est-ce toi, leur loup ? On ne travaille plus. Le tricot est là, tout fait, partout. On a signé sa dernière feuille. C'est le départ des papillons. On ne rêve plus. On est rêvé, silence. On n'est plus pressé de savoir. C'est la voix de l'étendue qui parle aux ongles et à l'os. Enfin chez soi, dans le pur, atteinte du dard de la douceur. On regarde les vagues dans les yeux. Elles ne peuvent plus tromper. Elles se retirent déçues du flanc du navire. On sait les caresser.
Enfin chez soi. Voilà, on a ralenti les temps qui courent grâce à Henri Michaud et Lou Quevauvillier. Une des choses qui anime les conversations que nous avons chaque soir, quelle qu'en soit la vitesse, c'est évidemment le processus de création des artistes assis à cette table. Pour l'auteur, compositeur, interprète Gérard Manset, tout se passe beaucoup la nuit.
Je crois que quelqu'un d'autre travaille à mon insu et est là pour diriger l'affaire. Donc je le laisse quelquefois, je lui laisse la bride sur le cou. Alors, ça se passe la nuit. Moi, tout se passe la nuit, c'est-à-dire quand je dors. Un être surnaturel, prolifique, prodigue.
Sympa ?
Je ne sais pas, je ne connais pas son visage. Probablement, enfin, charitable, sinon sympa, humaniste. Vient s'emparer de ma pauvre petite cervelle de préadolescent. Oui, d'enfantin.
Non, mais c'est avec tendresse que je rigole. Hein.
Oui, je sais. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de tendresse vis-à-vis de celui que je suis dans ces moments-là, parce qu'il est fragile.
Et alors, l'être surnaturel qui parle à cet endroit de vous-même, un peu enfantin et adolescent, il lui dit quoi ?
Il ne me dit rien. Il sait qu'il a un automate à sa disposition. Et alors, quand l'automate se réveille, quand l'automate a pris son crème avec un croissant en lisant quelques âneries d'aujourd'hui, parce qu'il se tient au courant, l'automate en question, il aime voir où vont les gens. Et donc, au bout d'un petit quart d'heure, quand le même automate a regardé par la fenêtre pour voir quel temps il faisait, tout ça, qu'il va s'asseoir, qu'il a toujours des trucs à corriger, relire, ressortir, exhumer. Alors non, soudainement, il faut l'interrompre, on lui prend la main, on le soulève comme une chiffe molle, et comme un pantin, on va le promener de pièce en pièce en lui faisant prendre un ouvrage qu'il n'aurait jamais imaginé sortir, et cet ouvrage, on le lui fait ouvrir, et une fois qu'il l'a ouvert, on le lui fait feuilleter. Et durant le moment où il le feuillette, cet automate se demande pourquoi. Parce que là, à ce moment-là, l'individu, le Gérard en question, l'auteur-compositeur, remonte à la surface, et il se dit « mais n'ai-je pas vu passer quelque chose d'extraordinaire ?» Et alors, il a vu passer quelque chose d'extraordinaire, il revient en arrière, il remonte le courant des pages une à une, et il trouve, c'est le mot « blossom ». Non seulement il y a le mot « blossom », mais il y a autre chose.
Attendez, pouce, est-ce que c'est indiscret de demander à l'automate dans quel livre il trouve « blossom » ?
Non, oui, c'est indiscret.
D'accord. Alors, je referme.
Et c'est pas indiscret, non, c'est pas, mais simplement inopportun. Alors, en tout cas, ce blossom, il l'a vu dans une phrase. Et il retrouve la phrase. Et la phrase, c'est « En 1825, le capitaine Frédéric, je ne sais plus, passe le Cap Horn et se dirige vers l'archipel des Pomoutous. » Et là, ça y est. L'intrus de tout à l'heure, qui m'a pris la main, là, il est reparti se coucher, où il est parti en assister d'autres. Et moi, il me laisse. Il sait que ça va, l'affaire va suivre.
« En fait, l'écriture est étonnamment niveleuse. J'aurais pu écrire la moitié de ses propositions ivres ou défoncées, par exemple, et l'autre moitié sobre. J'aurais pu en écrire la moitié en pleurant toutes les larmes de mon corps, et l'autre dans un état de détachement clinique. Mais maintenant qu'elles ont été rebattues un nombre incalculable de fois, maintenant qu'elles paraissent enfin couler de source, qui pourrait les différencier ? C'est peut-être pour cette raison qu'écrire toute la journée, même quand c'est ardu, ne représente jamais pour moi une grosse journée de travail. La plupart du temps, j'ai plutôt l'impression d'équilibrer les deux côtés d'une équation. À l'occasion, satisfaction relative, mais le plus souvent, violente averse.
Violente averse. Les mots de Maggie Nelson dans Les Bleuets, traduit par Céline Leroy. C'est un livre qui est à paraître mi-août et Maggie Nelson sera parmi nos premières invitées de la saison prochaine. Ces mots étaient choisis et lus par Jeanne Aléos. Il y a des entretiens plus ou moins confortables à mener. Nous avons évidemment repensé à l'immense réalisateur Bellatar, qui avait beaucoup plus envie de sortir du studio pour aller fumer des clopes et qui se levait et se rassasiait nerveusement, mais qui s'est tout de même arrêté pour évoquer rapidement et pour finir Jean-Luc Godard. Et puis il y a eu le tout aussi immense Antonio Lobo Antunes. Il parlait par exemple de la fin d'un livre comme de la fin d'une histoire d'amour.
Parfois je me demandais quand est-ce qu'un livre est fini. Un livre est fini quand vous sentez qu'il en a assez de vous et que vous avez assez de lui. Ça a été un mariage très agréable pendant le temps que cela a duré, car vous couchez avec lui, le matin, il est là tout le temps. Il vous habite tout le temps, même si vous pensez à autre chose. Il vous occupe. Parfois, il est tyrannique. Mais bon, dans l'amour, tout le monde est tyrannique. C'est curieux parce que je crois que je le regarde comme un être vivant. Mais il est différent de moi, donc. On travaille tous les deux jusqu'à ce qu'ils disent c'est fini. Parfois, on a de la peine de se séparer. Et puis, il est publié. Il est fini pour vous.
Vous, est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Faire autre chose qu'écrire ?
Non, enfin, si c'est marcher en montagne, tout ça, du kayak, non. Hein. La menuiserie, non plus. Mais...
Danser ?
Mais effectivement, je peux faire plein d'autres choses, mais en fait, non. Puisque ça va quand même mener à quelque chose qu'il faudra, que j'aurais envie de construire dans la langue écrite. Donc je peux me dire, je vais essayer, je me le dis régulièrement, je vais faire autre chose, machin, parce que c'est difficile de vivre de ça quand même. Mais ça, rien d'autre m'intéresse en fait. À ce point-là, rien d'autre. Parce que c'est un super pouvoir. On peut tout faire, on peut tout réinventer, y compris la roue, comme dit Anne Garetta. Et il faut le faire d'ailleurs. Et on manipule le monde entier si on veut bien le faire. Je veux dire, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a une activité équivalente? Non. Enfin, dans les autres arts, sûrement. Mais sinon, non. C'est le super pouvoir. Je suis pas prête de renoncer à ça.
En fait, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais, parce que c'est plus des fondus enchaînés. C'est-à-dire que pour moi, vraiment un tableau amène le suivant. Ensuite, une exposition, c'est quasiment chaque fois une nouvelle narration, un nouvel ensemble. Mais déjà, moi, cette exposition-là, qui est encore tiède comme le rocher, elle m'amène déjà à la suivante. Je suis déjà excitée du prochain chapitre. Donc il y a pas, il y a rarement des ruptures en fait. Il y a beaucoup de glissements, de fondus enchaînés. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a certaines étapes qui se passent dans l'atelier, dans le secret de l'atelier, où voilà, je vais glisser d'un tableau à un autre et puis à un autre. Je vais pas forcément dévoiler toutes ces étapes. Donc par moment, on peut se dire tiens, waouh, elle a sauté d'un rocher à un autre. On n'a pas vu ce grand saut, mais entre les deux, il y a eu beaucoup de petites étapes, de petites marches.
Ça veut dire que vous ne respirez pas d'un tableau à l'autre. C'est une continuelle question.
Ouais, il y a vraiment une frénésie créatrice qui m'interroge aussi, parce que c'est un rythme effréné. Puis à chaque fois, c'est quand même, il y a une idée du risque, alors tout est relatif, hein, mais il y a quand même, moi j'ai toujours l'impression que je saute du sixième étage sans parachute. Enfin, quand je c'est pas de la répétition dans le sens que je suis pas dans le connu en fait. À chaque fois, je déplace, c'est une aventure.
Ça cavale, ça va vite les temps qui courent. De jour en jour, d'émission en émission, parfois les choses se mélangent, les voix se répondent. Par exemple, l'écrivain ici, Antonio Lobo Antunes, à l'écrivaine Céline Minard, et juste à l'instant, à la peintre Claire Tabouret. Dans ces temps si difficiles à saisir que sont les temps de création, s'en mêlent les émotions les plus diverses, qui sont des freins ou des vitesses supplémentaires, au contraire, pour continuer de travailler. Qu'est-ce qu'elle en pense, la photographe Yoann Lamouler?
Vous avez peur de quoi? J'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de rater des choses. J'ai peur de... Il y a des moments où on n'arrive pas dans son ventre à photographier parce qu'on n'a pas assez de place. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, il y a des périodes où je photographie plus du tout les villes. Et j'ai peur de perdre ce temps-là. Là, par exemple, photographier Marseille depuis un mois, c'est très compliqué pour moi. Donc, la rue d'Aubagne, c'est une rue qui est en centre-ville. Moi, c'est pas mes quartiers, donc j'ai moins de repères aussi. Et puis, j'ai énormément de colère, j'ai énormément de peine. J'ai plus de colère que de peine. Donc voilà, comment on photographie quand on est en colère, par exemple? Qu'est-ce qu'on raconte en photographie quand on est en colère? Quelle justesse dans le langage, dans le ton, dans le positionnement politique, et je suis méfiante, ouais, de ce que je peux raconter sur Marseille. On raconte beaucoup de conneries sur Marseille.
J'ai pas la sensation, en regardant ces photographies de ce livre Faubourg, Yoann Lamouler, que c'est un livre qui a été fait avec de la colère. J'ai l'impression que c'est un livre assez calme.
Mmh. Oui, ouais, moi aussi, il y a plein de moments où j'ai l'impression d'être super bisounours.
J'ai dit calme, hein.
Non, mais oui, bien sûr, calme.
Rien à voir, mais vraiment rien à voir.
Non, j'ai plus de colère en moi que de calme, encore une fois.
Vous écoutez France Culture, Par les temps qui courent.
C'est sympa ou pas? La balle. L'homosexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans le cœur des enfants dans les cours de récréation. Il vise sans chercher à savoir s'ils sont gosses de bobos, d'agnostiques ou de catholiques intégristes. Sa main ne tremble pas, ni dans les collèges du 6e arrondissement, ni dans les zones d'éducation prioritaire. Il tire avec la même précision dans les rues de Chicago, les villages d'Italie ou les banlieues de Johannesburg. L'homosexualité est un sniper aveugle comme l'amour, éclatant comme un rire, et aussi tendre qu'un chien. Et s'il se lasse de prendre des enfants pour cible, il tire une rafale de balles perdues qui vont se loger dans le cœur d'une agricultrice, d'un chauffeur de taxi, d'un chanteur hip-hop, d'une factrice pendant sa tournée. La dernière balle a atteint une femme de 80 ans pendant son sommeil. La transsexualité est un sniper silencieux qui colle une balle dans la poitrine d'enfants plantés devant un miroir ou qui compte leurs pas sur le chemin de l'école. Il ne se préoccupe pas de savoir s'ils sont nés d'une insémination artificielle ou d'un coït catholique.
Ils ne se demandent pas s'ils viennent de familles monoparentales ou si papa portait du bleu et maman s'habillait de rose. La transsexualité est un sniper aveugle comme le rien, éclatant comme l'amour, aussi tendre et tolérant que sont les chiennes. De temps en temps, ils tirent sur une professeure en province ou sur un père de famille et boum. Pour ceux qui ont le courage de regarder la blessure en face, la balle devient la clé d'un monde dont ils n'avaient jamais rien vu auparavant. Les rideaux s'ouvrent, la matrice se décompose, mais parmi ceux qui portent la balle dans la poitrine, quelques-uns décident de vivre comme s'ils ne sentaient rien. Mais nul n'a jamais su comment extirper la balle. Ni les mormons, ni les castristes. On peut l'enfouir plus profondément dans sa poitrine, mais on ne peut jamais l'extirper. Ta balle est un ange gardien. Elle sera toujours à tes côtés. J'avais 3 ans, quand pour la première fois j'ai senti le poids de la balle. J'ai su que je la portais en entendant mon père traiter de sale gouine dégueulasse deux filles étrangères qui marchaient en se donnant la main dans la rue. Ma poitrine s'est mise à brûler. Cette nuit-là, sans savoir pourquoi, j'ai imaginé pour la première fois que je m'échappais de ma ville et que je partais dans un autre pays. Les jours qui suivirent furent des jours de peur et de honte. Il n'est pas difficile d'imaginer que parmi les adultes qui participent aux manifestations de la colère, certains portent enkystés dans leur plexus une balle ardente. Par simple déduction statistique et connaissant la virtuosité des snipers, je sais que certains de leurs enfants portent déjà la balle au cœur. J'ignore combien ils sont, quel est leur âge, mais je sais que certains d'entre eux ont la poitrine qui brûle. Et je voudrais dire à ces enfants, la vie est merveilleuse. Nous vous attendons ici. Nous sommes nombreux. Nous sommes tous tombés sous la rafale. Nous sommes les amants aux poitrines ouvertes. Vous n'êtes pas seuls. Paris, le 15 février 2014.
Quelle est la part de la tendresse dans l'écriture de ce livre-là ?
Alors, je suis étonné par votre question. Pour moi, la tendresse, c'est très important. Parce que quand on est confronté au rejet, en fait, depuis l'enfance, il n'y a que la tendresse qui vous sauve, en fait. Et du coup, c'est devenu de plus en plus important pour moi de donner ça aussi dans mon écriture. J'ai l'impression, puisque avant j'avais une écriture très combative en fait. J'avais l'impression qu'il fallait voilà porter ça comme une espèce de marteau en étien. Mais après, je me suis rendu compte en fait que plus important presque que la critique est vraiment enfin une écriture du soin, quelque chose que voilà, puisque ouais, pour moi, il y a comme deux processus en fait qui vont ensemble. D'un côté, la thérapie politique, et de l'autre côté, l'émancipation cognitive. Et voilà, il faut trouver un équilibre entre les deux.
Puisque vous disiez tout à l'heure que finalement, il y avait un horizon, Paul B. Preciado, qui était une multiplicité radicale des désirs, des corps aussi.
Des désirs, des corps, des formes
des
vies.
Oui, des tout à fait. Est-ce qu'il ne faut pas être doté de ça, alors pas que ça, mais quand même de ça, pour accueillir cette multiplicité? Parce qu'à un moment donné, quand tout devient pluriel, quand tout devient plus, finalement, en fait, plus différent, plus inconnu, plus indécidable, il faut être dans une disposition politique, sensible, d'ouverture.
Les problèmes, c'est que nos traditions politiques sont tellement marquées par les rapports entre souveraineté et violence, qu'on a des mal à penser que la souveraineté peut être aussi des côtés de la faiblesse, des côtés de la fragilité. Et pour moi, c'est ça que j'essaye de faire, y compris avec philosophiquement. C'est-à-dire que pour moi, l'ancrage de ma philosophie est les corps mortels, vulnérables, fragiles. et donc forcément tendre. Voilà.
Young girls, they do get weary wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. Gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Love is their whole happiness.
Et de la tendresse, il n'en manque pas, dans le duo que forment Victor Catala et Kati Pikarainen, deux artistes de cirque dont la pratique est surtout basée sur le porté acrobatique. Un de leurs spectacles en tournée en ce moment s'appelle « Pour le meilleur et pour le pire ». Ils étaient venus nous en parler. Par les temps qui courent, quand histoire d'amour croise histoire de création.
L'acrobatie en soi, c'est... Allez, c'est de l'acrobatie. C'est plus, je pense qu'on est beaucoup plus intéressé par comment on prend une main, comment on prend les mains, qu'est-ce que ça veut dire prendre une main de quelqu'un d'autre. Ce sont des gestes qu'on les ralentit à certains endroits et on les pousse, on essaie d'amortir pour quand je la dépose vraiment délicatement ou à des moments je la jette ou et je pense que ça peut, les gens peuvent se retrouver et se dire bon voilà, c'est comme si c'est comme si je te donnais la main, mais il y a une, voilà, donner une main, c'est pas un bonjour, un au revoir, c'est, je te donne la main et on part pour faire, il y a quand même quelque chose entre.
Elle vous la donne aussi au passage.
Et elle me la donne aussi, voilà, exactement. porter, foutre quelqu'un là-haut, il n'y a aucun problème. Mais moi, là-haut, je le fais. Mais je ne le mérite pas.
Et vous, alors, ça vous fait quoi d'être là-haut? Bah, donc, vous êtes souvent là-haut. Vous êtes ou bien à bout de bras, sur les épaules, sur la tête, très haut, sur un mât.
Qu'est-ce que ça me fait, là? Oh, je pense que j'aime voltiger, quand même. J'aime faire ce que je fais, du coup, d'être portée et d'être portée, mais spécialement d'être portée par Victor. Du coup, je vais un peu en arrière. Quand je suis arrivée en France pour cette école, je voulais plutôt faire peut-être un solo ou un grand collectif, et je voulais pas me installer un duo, parce que je me suis dit, faire tout ce travail, et souvent les couples, c'est un duo, c'est fragile. Et on nous a un peu poussé pour quand même essayer de travailler ensemble. Et du coup, ça s'est tellement bien passé que du coup, ce duo est arrivé, parce que avec lui, c'était bien. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai dit spécialement d'être apporté par Victor, parce que il le fait tellement bien, et c'est confortable et c'est facile. Du coup, dans toutes les formes, comme vous avez dit, dans le corde, il y a un objet entre nous, la perche. Mais il y a une telle confiance avec lui que je... Ouais. Que j'ai pas retrouvé avec quelqu'un d'autre.
Ça peut être acrobatique, la radio. Parfois, faut avoir le cœur accroché. Il y a des entretiens plus ou moins confortables, et puis il y a des entretiens plus ou moins fragiles. Tout semble pouvoir s'écrouler, s'effriter d'un coup. Et puis voilà des éclairs, des manières de dire ce qu'on est en train de faire, ce qu'on va faire ou ce qu'on a fait, qui renforcent la parole et qui permettent de continuer. C'est le souvenir que nous a laissé le grand metteur en scène Pippo Del Bono, venu en octobre dernier pour parler de son travail et qui, quelques mois plus tard, perdait son ami et interprète fidèle, Bobo.
Moi, je vais être... Je vais devenir patron de faire la mise en scène aussi de ma vie, pas seulement des spectacles, des films, des arts. Je dois devenir metteur en scène de ma vie. Totalement. Sinon, je tombe. Être metteur en scène des propres vies, c'est pas simple. Des spectacles, je laisse faire. De l'art, je chante, je fais tout. Je danse, je fais théâtre, je fais cinéma, je suis pas mal, non, tu vois. Je fais exposition, maintenant, je peux considérer un artiste complet. Mais dans la vie, je suis un désastre. Je suis pas un désastre. Je suis pas capable de gérer cette créativité qui m'a mené, par exemple, maintenant, à être un peu dans un boulot un peu chaotique de la... De tout. Quand je sors, je prends tout, je prends 1000 médicaments, tu ne sais plus quoi faire. Tu peux pas, la génialité, il est bien, mais tu la dois utiliser aussi pour la vie personnelle. Et surtout, tu la dois utiliser pour changer un petit peu de changer le monde. On a besoin de changer le monde. Moi, maintenant, je souffre à ce moment-là, que cette situation un peu, il te fait pas sortir de toi-même. Tu as besoin de sortir. Nous, on a une situation vraiment mal. On a des choses qui sont pas bien. On a un racisme qui arrive. Il y a des gens qui souffrent. Tout mon parcours de ma vie, il était lié à la souffrance des gens. Pour créer de l'art. Moi, je vais pas faire le bravo, mais je vais aider les autres parce que je suis une personne brava. Et une autre chose, tu as un moyen pour faire transformer des gens qui, dans une société, ils sont considérés de la poubelle, dans des anges. Et ça, c'est mon rôle. C'est pour ça que, pour moi, c'est très important de retrouver le juste chemin pour sortir de ce moment-là tellement difficile. Mais bon, pour vivre bien, mais surtout pour utiliser ma capacité que j'ai pour les autres.
C'est pas du tout la même chose d'être heureux avant d'avoir été malheureux et d'être heureux après avoir été malheureux. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ça n'a pas la même qualité, ça n'a pas la même valeur, vraiment. Dire la rencontre amoureuse n'est qu'une rencontre heureuse, elle ne nous transformera pas. Elle transformera pas notre regard. Et alors, peut-être qu'il faut être un peu malheureux dans sa vie pour être très heureux dans les œuvres qu'on découvre. Ou pas forcément, mais en tout cas il faut se poser des problèmes dans sa vie pour que les œuvres puissent parler. C'est l'image classique du cœur brisé, mais pour que la lumière puisse rentrer.
Soyez bien malheureux avant d'aller au théâtre. Payez-vous une bonne peine d'amour.
Non mais au moins il y a une question à poser. Et il y a une question à poser, et une question qui soit existentielle. Parce qu'en fait sinon on est un spectateur passif. C'est peut-être ça en fait, c'est surtout ça. C'est-à-dire que les œuvres deviennent actives à partir du moment où on les active. C'est comme les dieux. Un dieu à qui on ne parle plus meurt. Il y a des dieux qui ont disparu parce que on a cessé de croire en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent que par notre croyance, mais si on ne leur parle pas, bah ils s'éteignent, c'est normal. Ils ont perdu leur fonction. Ils ont perdu leur raison d'être.
Et ça, c'est très important pour nous ici à Parler Temps qui court, la raison d'être des œuvres d'art dont parlait un instant Pacôme Thielman. Pippo Del Bono, juste avant, évoquait la mission, l'œuvre de faire œuvre de sa propre vie, de mettre en scène sa propre vie. C'est d'une certaine manière ce qu'a fait la jeune réalisatrice talentueuse Mila Turajlić dans son film, en commençant par filmer l'appartement de sa mère.
J'ai grandi dans un appartement où elle mange avec le même couvert avec lequel ma grand-mère a mangé, ou je sais même pas, mais vraiment des objets que j'utilise au quotidien, c'est des objets qui appartenaient parfois à ma grand-mère, parfois même à mon arrière-grand-père. Et je suis très frappée parfois quand je vais chez mes amis, parce que là, en fait, à mon âge, je pense que tout le monde a presque meublé nos apparts chez Ikea. Et en fait, je me rends compte à quel point les choses qu'on touche au quotidien sont des choses qui existent depuis peu, 2, 3, 4 ans. Et parfois, je me demande, même quand je suis assise à Paris, parce qu'évidemment, là, je suis pas entourée par des objets si vieux, que nous, on vit les vies aujourd'hui, en fait, ça nous arrive de ne pas toucher des choses autour de nous qui ont une histoire. Parce que on est toujours en train d'acheter de nouvelles choses, parce que rien n'est créé pour durer, déjà. Donc il y a cette obsolescence qui rend les objets qu'on touche, en fait, la tactilité de notre quotidien très récent. Alors que je suis grandi dans un appartement, en fait, tout ce qu'on touche a une histoire.
Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin? Je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire? Qui sourira dans son miroir et ses habits, je n'en parle pas. Qui portera ce blouson-là? Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes, ni la cigarette,
et la maison qu'il achètera, et le gazon qu'il taillera,
sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront, puis un jour ils mourront, et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien? Je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, que les gens.
Les objets vivent plus longtemps que les gens, nous dit Philippe Catherine, et les émissions de radio aussi. C'est ça la grande joie. Alors vous l'avez compris, par les temps qui courent, c'est plein de monde. Plein de monde, plus ou moins de passages. Et puis des gens qui restent un peu plus longtemps, parmi lesquels Romain de Bec de Lièvre. En avril, il recevait le grand peintre Gérard Fromanger, et ensemble, pendant une heure, ils ont pris plein de petits chemins.
C'est une espèce de comment on appelle ça, les petits chemins à la campagne. C'est un chemin vert. C'est un chemin qui n'est pas une route, qui n'est pas même pas communal, même pas vicinal. C'est un chemin dans la forêt du monde, quoi, dans la jungle. C'est comme les chemins des animaux. C'est pareil. C'est des lignes comme ça qui se font par la vie même. Et alors là, ça passe par la lumière et l'ombre. La lumière et l'ombre, elles sont là. Alors elles bougent. Elles changent selon les heures. Bon, enfin, pendant 5-10 minutes, une heure ou deux, on a quand même un socle sur lequel s'appuyer, d'ombre et de lumière. Et donc, ça n'est pas tellement hasardeux ou c'est assez précis. Si je regarde votre visage là devant votre micro, c'est assez précis ce qui passe dans vos cheveux, puis sur le front, sur votre nez, dans la joue. Alors je ne peux pas penser ni. Alors Giacometti, il commencerait en haut par vos cheveux en haut, puis il mettrait un petit trait en haut de votre nez, puis un autre en bas, puis en bas au milieu de votre menton, là au milieu de la barbe, puis en bas avant d'aller à votre chandail. Mais il aurait comme ça une verticale qui suit. Puis après il prendrait horizontal, puis il ferait des ronds, etc. Et il construit géométriquement, tandis que moi, je vais suivre. C'est un bonheur de dériver. Avec la lumière, c'est que je ne connais pas au départ, je la connais pas. J'ai pas de grille dans la tête avant de commencer, comme beaucoup de philosophes qui expliquent le monde avec leur grille. J'en ai pas. Alors je regarde la lumière, je regarde le réel le plus près possible. Et c'est formidable. Ça donne toujours quelque chose, sans complexe et puis sans honte, avec un petit orgueil. Je dis ben, je vais y aller. Je regarde vraiment, quoi. C'est toujours la même question. Qu'est-ce qu'on voit? C'est formidable, les doutes qu'on peut avoir, les erreurs qu'on peut faire, les témoignages, tout ça. C'est comme la vue, c'est très douteux, c'est on oublie, on change d'avis. On dit ah oui, vous avez raison, c'était peut-être plutôt comme ça, etc. Et là, je peux pas me tromper, je suis ce qui est, la lumière et l'ombre. Inventer quelque chose, c'est échapper aux contraintes, un peu. J'ai jamais pensé à ça comme ça, hein, mais ouais, je réfléchis tout haut. C'est pas facile. Échapper à ces contraintes, c'est vraiment une joie, c'est une vacance. On part en vacances. Ah, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Donc il n'y a pas d'ennui, pas de fatigue, pas de, non. Ça passe.
Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation. Mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas. N'examine pas. Mais reste prêt pour les signes. Vigilant. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire.
Mets-toi pour ainsi dire en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit, et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis.
J'adore observer la nuit. C'est vrai que je la regarde comme une toile, vous voyez, qui, parce que j'ai un endroit dans mon studio qui donne sur une fenêtre comme une ogive, comme ça, très belle, et qui, en fait, affiche en face de moi le ciel. Donc, pour moi, le ciel, c'est aimer le ciel, comme je vous parlais d'aimer la mer, pendant 2 mois, ça n'a rien à voir. Le ciel est, la mère de mes soirées, de création, quoi. Mon océan d'amour, voyez-vous.
Les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin. C'était la Dolce Vita. Cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour peignure, conduisant d'une main.
Au son ce soir, c'était Stéphane Touvenin. À la réalisation, Marie-Laure Ciboulet et Lise-Marie Barré. Et une grande pensée pour Charlotte Roux, qui réalise l'émission au moins tous les lundis. Un grand merci à celles et ceux qui sont passés par l'équipe de Par les temps qui courent cette année, c'est-à-dire Anna Baron, Camille André, Amélie Perrault, Anne Toscane Juiedes, et celles et ceux qui en ont été le noyau dur, Jeanne Aléos, Romain Debecq de Lièvre, Marianne Chassor, Lou Quevauvillier et Valentin Rémy. Dans un instant, c'est le journal, 22h sur France Culture. Quand vous voulez, franceculture.fr pour toutes les émissions dans leur entièreté. À 7h06 cet été, vous pourrez écouter les séries musicales. C'est pas super?
Trop le revers dans mon smoking blanc cassé. Pouvait pas me blaser. Même dans l'obscurité, je te revois encore. Elsa, Elsa, yeah, yeah, yeah. Je ne t'oublie pas, Elsa. Sur ma mémoire en ruine.
feu. Je traîne un vieux désarroi. Mon gilet de chagrin. Loin de la Dolce Vita. Cette façon que tu avais de te serrer. Contre le revers de mon smoking blanc cassé. Je voudrais l'oublier. Je te revois encore. Elsa. Elsa. Elsa.